Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
What time is it? Yeah, no. Time is it? Yeah, no. Talk to that. Talk to that. What time is it? Yeah, no. What time is it? Yeah, no.
Got gun, Hulk left slot.
Dixie left, Key left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Fever left, 75, Katie. Omaha, quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead, goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 527 du podcast Jean Actuel. Mathé, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du débrief de la semaine, car oui, il reste 10 matchs à dérouler dans cette semaine 7 de NFL. On va le faire avec Grégory Richard, bonjour.
Bonjour Alain et bonjour messieurs, bonjour à tous.
Je tiens à vous le dire, casque sur la tête, petite lunette polo orange, on dirait un coordinateur offensif des Florida Gators.
Tout à fait, et ça, vu comment ça marche bien cette année, j'aurais pu...
Alors, je t'avoue que j'en ai aucune
c'est
idée.
C'est pas grave, les spécialistes apprécieront la
très
réflexion.
Bien. Donc, ah, j'allais dire, il est prêt à gagner 423 yards au sol et 2 milliards dans les airs sur le prochain match, mais ça marche pas cette année, si j'ai bien compris.
C'est un peu inconstant, mais voilà.
C'est un peu inconstant. Voilà. Bon. Lucas, voilà, est avec nous. Bonjour, Lucas.
Salut, spécialiste dont je ne fais pas du tout partie, mais salut messieurs, j'ai pas eu la ref, mais c'est, ça avait l'air d'être drôle.
Bah les Florida Gators quand même.
Oui, non, quand même, je parlais surtout de Greg qui disait que cette année c'était un peu compliqué, bah, je le crois sur parole.
Ah oui, bon là on est au même niveau. Hein. On est,
c'est bien, je peux vous dire n'importe quoi, surtout qu'en plus je suis un peu sévère, mais voilà, je peux vous dire n'importe quoi, vous me croirez.
Mais ça marche toujours avec Tim Tebow, ouais, c'est ça?
Oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, pour son 50e anniversaire, là, il est inscrit.
Et alors Ford, non? Alors Ford et Joachim Noah, enfin, le mec, il confond.
Oui.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors Ford et Joachim Noah, quand même aussi, ouais. Ouais, c'est vrai que, bon, on a quelques années de retard, si je comprends bien. Ceci dit, je crois qu'il y a un doc en prévision, non, sur la génération dorée, Tim Tebow, Aaron Hernandez, Riley Cooper, Cam Newton.
Sûrement, bah, il y aura des choses à dire. Oui, je pense que Netflix, ils ont moyen de faire 33 épisodes, là, mais.
Je crois que j'ai cru voir passer qu'il y avait un doc en prépa sur cette équipe incroyable, on va dire un assemblage de personnalités très hétéroclites qui se côtoyaient du côté de Florida.
Haut en couleur, ce sera le titre.
Exactement. On va parler, nous, de NFL et donc du débrief de la semaine 7. On varie un peu les plaisirs avec les Seahawks à l'honneur. Après cette semaine, ils sont toujours là. Les Bengals qui redémarrent, les Ravens aussi, les Titans sont tête de l'AFC Sud et toujours les équipes de New York qui sont encore là. C'est parti pour un nouveau débrief.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les Seahawks sont les leaders de la NFC West après cette semaine. Qui aurait imaginé prononcer cette phrase au début de l'année? Et pourtant, Seahawks 37, Chargers 23, c'est assurément une des grosses surprises. 17-0 pour Seattle dès le premier quart, 24-14 à la pause et leur défense a tenu le reste du match. Kenneth Walker a ponctué leur succès avec un touchdown de 74 yards en fin de partie. C'est exceptionnel, c'est miraculeux, c'est magnifique. Pourquoi ça marche pourquoi ça marche, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Seattle qui a fait dans ce match quasiment ce qu'on attendait de Chargers en fait. C'est un match inversé par rapport aux prévisions, Lucas.
Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins miraculeux parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus une constante du côté de Seattle d'être bon. Tu l'as dit, ils ont d'abord été très bons en début de saison dans les airs et puis notamment grâce à Geno Smith. Et puis là, ça commence à être de plus en plus complet avec une défense qui commence à être de plus en plus bonne ou en tout cas de moins en moins mauvaise. Un jeu au sol qui se développe de plus en plus aussi. Ça commence à vraiment devenir une équipe complète. Pourquoi ça marche ? Parce que bah justement il y a cette possibilité désormais de gagner un petit peu dans tous les secteurs. La défense qui est bonne, tu l'as dit, 17-0 dès le premier quart-temps, forcément ça donne un petit avantage, même si les Chargers sont revenus petit à petit, ils ont réussi à les tenir à distance. Ils ont du talent, ils perdent pas trop de ballons, donc franchement ça commence à être une équipe, tu l'as dit, qui est première de sa division et une équipe sur laquelle va falloir commencer à compter petit à petit.
Greg, c'est plus du hasard pour Seattle?
Non, Lucas a globalement mis le doigt sur pas mal d'éléments. C'est vrai qu'il y a notamment, et ça c'est vrai que c'est à souligner, je trouve qu'il y a un play calling notamment offensif qui est extrêmement juste. Voilà, on ne s'amuse pas à jouer contre nature. Je trouvais qu'en début de saison justement on n'utilisait peut-être pas assez le jeu au sol et c'est un peu plus une habitude. On a affaire à un jeu d'attaque un peu plus équilibré. Et ça reste tout aussi adapté pour marquer des points sans forcément desservir un secteur ou l'autre, sans forcément mettre à l'agonie à la ligne offensive qui reste composée de pas mal de jeunes joueurs. Et c'est vrai que pour le coup, j'anticipe un petit peu, mais un coordinateur comme Shell Waldron, par exemple, ce sera à surveiller la saison prochaine, parce qu'on sait en plus qu'il fait partie de l'arbre Sean McVay, très prisé ces dernières années, et le fait qu'en tout cas il arrive à faire tourner Geno Smith. Marquise Goodwin également sur le poste de receveur, hein, ce qu'on pouvait dire après la sortie de Dikembe Metcalf que ça allait se gâter un petit peu pour les Seahawks, que nenni. Donc on arrive malgré tout à renouveler cet effectif, ou avec des revenants ou avec des rookies. Donc c'est une bonne chose. Et en effet, voilà, je rejoins ce qu'a dit Lucas, notamment sur la défense. C'est sûr que quand on prend moins de 25 points par match, ça devient déjà un peu plus accessible pour aller chercher une rencontre, que concrètement l'attaque des Seahawks depuis le début de la saison, Geno Smith ou pas, et en l'occurrence il est là depuis le début, ça tournait plutôt pas mal.
Ah, ça tourne plutôt pas mal. Geno Smith est précis. Il gagne 5,5 yards par course aussi au sol. C'est la meilleure moyenne de la ligue, donc c'est clairement leur identité. Et puis tu y as fait allusion, la ligne offensive qui est transformée par leur QV de rookie, Kenneth Walker qui est aussi un rookie qui a 168 yards et qui met 2 touchdowns sur ce match. Donc c'est hallucinant. Leur défense vient de prendre donc 9 points contre les Cardinals, 23 contre les Chargers. Tu l'as dit, Greg, l'attaque n'était pas en difficulté et la défense, quand ça marche comme ça, ça leur permet de gagner. Mais c'était contre des Cardinals qui sont plutôt en difficulté sur les débuts de match, contre des Chargers qui sont un peu plombés par les blessures. Est-ce qu'on relativise à cause de ça, ou alors est-ce qu'on se dit vraiment cette défense elle est en progrès? Tu relativises pas vu ta boue.
Non, les Chargers en soi, oui, c'est difficile d'occulter la question des blessures. Après, on en arrive à une partie de la saison où il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont aussi plombées par les blessures. Quand Mike Williams se blesse, par exemple, ils sont quand même bien bien derrière au tableau d'affichage. Alors, je vais bien croire que Keenan Allen est parvenu à 100%, mais il était revenu en l'occurrence sur ce match-là. Donc, c'est vrai que malheureusement, je pense que pour les Chargers, si je fais la petite passerelle en passant. Voilà, je pense que c'est aussi des gestions de momentum qui sont assez problématiques également. Du côté de Seattle, on a joué inspiré avec un bon play call. J'ai pas cette sensation-là du côté des Chargers, et ça a permis aux Seahawks de réussir à se détacher petit à petit. Alors peut-être qu'en effet, il y a un petit brin de réussite aujourd'hui qui pourra peut-être être un peu moins présent sur d'autres sorties. Hein. On a déjà vu des rencontres où ça tournait plus d'un côté que de l'autre. Hein. Les Chargers eux-mêmes le savent, vu qu'ils ont par exemple baissé pavillon très vite contre les Jaguars il y a quelques semaines de ça, hein, dans une semaine où ça ne voulait pas. Je ne sais pas si c'est ce genre de configuration également, mais en tout cas, voilà, du côté des Seahawks, je pouvais me dire que contre Arizona, avec une attaque qui avait du mal à concrétiser les actions, ça pouvait s'expliquer de cette manière-là. Là, en l'occurrence, avec un succès de référence malgré tout chez des Chargers irréguliers, mais chez des Chargers qu'il faut aller chercher quand même à l'extérieur, je trouve que c'est quand même de bon augure pour la suite.
Les Chargers, donc, qui s'inclinent, ils restent en positif, mais c'est tout sauf de la sérénité qui se dégage. Pourquoi il n'y a pas de progrès? C'était censé être l'année de la confirmation, Lucas, et pourtant ça stagne quand même assez nettement.
Oui, ça stagne assez nettement et ça stagne même des deux côtés du terrain, ce qui est peut-être même un peu plus surprenant parce que on le savait, cette défense devait s'améliorer. C'est manifestement pas vraiment le cas. Elle commence à prendre des gros jeux, notamment dans les airs. C'est compliqué. Jesse Jackson était revenu pas forcément à 100%. Il se blesse en plus. Alors c'est pas un joueur qui fait toute une équipe, mais quand c'est la recrue phare défensive sur laquelle on a mis beaucoup d'argent, forcément on est regardé un peu plus précisément, on va dire. Et pour le coup, en plus avec cette blessure qui pourrait l'écarter encore quelques semaines, ça pourrait être
saison terminée. Hein.
Ouais, voilà. Donc saison terminée, donc c'est dommageable pour l'équipe. Et puis même avec lui, on voit que c'est compliqué en défense. Et puis l'attaque aussi qui est, on se disait, était quand même une constante, quelque chose avec Justin Herbert qui on pensait allait être au moins au même niveau que l'an dernier. Tu l'as dit, ça progresse pas particulièrement et voire même ça régresse un peu. Alors certes, Justin Herbert pourrait être touché, il est vraisemblablement pas à 100%, mais tout de même il y a des décisions qui sont un peu dommageables de son côté, et on se dit alors que physiquement, même s'il est pas à 100%, il pourrait prendre des décisions un peu meilleures. Il y a des décisions du head coach aussi, et notamment sur le play calling dont faisait allusion Greg, qui sont parfois dommageables aussi, qui posent question. Tout ça mis bout à bout, ça donne une équipe qui en effet ne progresse pas, et c'est un doux euphémisme, voire même régresse un tout petit peu, au moins est loin de ce qu'on attendait, comme tu disais Alain. Ouais.
Grégory, c'est quoi le plus gros problème pour toi au niveau de la stagnation, l'attaque ou la défense?
Je pense que le problème au niveau de l'attaque, c'est toujours pareil, c'est que oui, en effet, il y a eu cette semaine contre les Browns qui a pu apparaître un peu comme un trompe-l'œil, on dira, mais c'est pas possible d'avoir un jeu au sol aussi peu efficace. Et je pense que ça rejoint aussi les problèmes de santé de Justin Herbert, c'est qu'à partir du moment où on met peut-être un peu trop l'accent sur un quarterback qui peut aussi être amené tout naturellement à appréhender aussi les chocs, peut-être à jouer peut-être pas avec le frein à main, mais en tout cas peut-être pas dans une libération, on va dire, totale, ça fait en effet que ton attaque non seulement devient unidimensionnelle, même si Austin Eckler dépanne à la réception, mais voilà, mais en tout cas ça reste une attaque qui devient unidimensionnelle et qui du coup en effet devient inconstante au fur et à mesure des jeux, parce que le coaching staff est pas le plus inspiré qui soit, et en plus voilà, les joueurs qui sont diminués peuvent clairement pas te sortir de mauvaises passes dont ils arrivaient à te sortir précédemment. Après, je vais être un peu taquin, mais malheureusement, on retrouve les Chargers, et c'était un peu l'appréhension en début de saison. C'est-à-dire que, ok, Herbert, il apporte peut-être un certain vent frais par rapport à la fin de cycle de Philip Rivers, mais on a à peu près les mêmes problématiques que les Chargers d'il y a peut-être 5-6 ans, quoi.
Après, la question des blessures, pour moi, ça devient un vrai sujet. On devrait limite le mettre dans les previews de l'année maintenant, staff médical, parce qu'il y a des équipes pour lesquelles c'est un vrai sujet. Les Chargers, la gestion des blessures, c'est catastrophique. Et en fait, c'est certaines équipes, et eux en font partie. Keenan Allen, il revient trop tôt, il est pas à 100%. Jesse Jackson, Lucaldi, il revient, il se blesse, donc ça veut dire qu'il est pas à 100%. Justin Herbert, il joue, il est pas à 100%. En fait, là, c'est quand même un vrai problème de gestion de l'équipe. Pourquoi tu refous ces mecs-là sur le terrain quand ils sont pas à fond? Il y a des équipes où quand un mec revient, c'est qu'il est remis et qu'il va pas se blesser.
Est-ce qu'on sait si c'est le même médecin qui avait perforé le...
Il est toujours, il est, alors, non, mais il est, on rigole, mais il est toujours là. Le mec qui a perforé le poumon de
Tyrod Taylor
il y a 2 ans, il est toujours là. Hein.
Surtout que, si je me trompe pas, ils sont en bye week la semaine prochaine. Oui. Ce qui aussi peut aider dans une prise de décision. Alors on sait que on jette pas les matchs par la fenêtre en NFL, mais là ils perdent ce match-là et en plus ils perdent des joueurs. On pourrait se dire en écartant un joueur sur un match, on gagne 2 semaines. Alors bon, c'est toujours facile de dire a posteriori, mais c'est vrai que les prises de décision du côté, je sais pas si c'est le médical ou en tout cas le coaching staff ou comment la communication passe, mais c'est hasardeux.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, Lucas, c'est aussi le message que t'envoies à tes backups. C'est-à-dire qu'en gros, faut qu'on fasse jouer les titulaires coûte que coûte, parce qu'on sait que derrière, ça va être tout pourri, quoi.
Et puis tu vois, on dit souvent, ils ont pas de chance avec les blessures. Au bout d'un moment, quand tu les gères comme ça, c'est plus une question de chance.
Bien sûr.
C'est vraiment une question de gestion, quoi. Et là, c'est un vrai problème.
Parce qu'on a cité plein de joueurs, mais on rappelle que Rashawn Slater, par exemple, sur le poste de tackle, est blessé aussi. Donc ça s'accumule quand même un petit peu.
On enchaîne avec les Bengals et les Falcons, 35-17 pour Cincinnati. Les Bengals sont de nouveau explosifs, messieurs, 537 yards pour leur attaque, 481 rien que pour Joe Burrow avec 3 touchdowns, tout le monde a flambé en attaque. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a récupéré? Oh, petite moue de Grégory. Ah bah oui, c'est vrai, il s'est fait punir par Zach Taylor cette semaine.
Ouais,
est-ce qu'on a récupéré les Bengals, Grégory?
Bah, écoute, moi j'en ai parlé avec avec Mathieu, hein, que certains ont pu voir sur le fauteuil vu qu'on s'est croisés dimanche. Il m'a vendu que l'attaque était pas bonne depuis le début de la saison. Donc moi j'entends, hein, mais je trouve que ces dernières semaines elle s'était nettement améliorée malgré tout. J'ai pas tous les matchs en tête, mais je les avais vus par exemple pas trop mal contre les Dolphins il y a pas si longtemps que ça. Enfin voilà, c'était une équipe qui a recommencé à tourner un petit peu, même si en effet c'était pas ce qui avait été plus constant par rapport à ce qu'on voyait ces dernières semaines. Ils avaient aussi des petits problèmes des petits pépins physiques côté receveur. Là voilà, le truc c'est que ça a bien tourné assez vite. Ça n'aurait pas changé le résultat, je pense, mais Atlanta a pas été gâté par la perte de cornerback titulaire également. Et je pense que le cahier de jeu, enfin le play call des débuts du côté des Bengals était d'attaquer le backfield défensif d'Atlanta. Et à partir du moment où il te manque AJ Terrell qui est ressorti et Kazee Ward, bah, face à des spécimens comme ceux que tu as en face, bah, ça devient extrêmement compliqué. Donc voilà, il n'y a pas eu photo sur ce match-là, notamment parce que Cincinnati était tout simplement inarrêtable, notamment en première mi-temps.
En fait, je viens de comprendre, tu portes du orange parce que c'est un gage que Zach Taylor t'a imposé.
Absolument.
Vous avez un pari, un truc comme ça, suite à la défaite. Bon, ils vivent par les gros jeux, ils vont pas trop s'embêter avec le jeu au sol, ils vont jouer en shotgun. Et puis voilà, tout le monde peut pas être les Patriots de Tom Brady ou les Saints de Drew Brees, Lucas. Eux, leur truc, c'est les gros jeux, et bah, c'est comme ça que ça marche.
Oui, mais ça a marché l'an dernier, donc en effet, pourquoi se priver? Après, en effet, j'avais trouvé quand même que cette attaque, elle avait eu du mal en début de saison. Elle était pas là où on l'avait laissée, et elle était pas là où on la retrouve maintenant, parce que je trouve que semaine après semaine c'était de mieux en mieux, et je pense que là le début de match au moins vraiment nous a fait retrouver l'attaque des Bengals de l'an dernier avec des énormes jeux. Je pense qu'ils ralentissent un peu consciemment ou inconsciemment en fin de match, et c'est pour ça que le score est un peu moins gros que ce qui pourrait être, et les statistiques sont un peu moins grosses que ce qu'elles pourraient être, bien qu'elles soient déjà bien tassées. Mais je pense qu'en effet, quand on voit ce début de match, je crois qu'il y a 21-0, il y a trois drive qui finissent en 3 touchdowns, T. Higgins qui est très bon, Tyler Boyd qui est très bon, Jamar Chase qui fait ce qu'il veut. Alors oui, il manque un peu de jeu au sol, mais quand on voit comment ça fonctionne si bien dans les airs, bon, on se dit pourquoi pas changer. Et puis ils affrontaient une équipe d'Atlanta qui, comme le disait Greg, avait des grandes difficultés avec son backfield défensif, notamment du côté des blessures, et qui n'est pas connue pour être une des équipes avec un pass rush le plus excitant ou le plus explosif. Donc forcément, on sait que Joe Burrow, on peut lui faire mal sur sa ligne offensive. Là, elle a tenu parce que forcément, face à elle, elle n'avait pas des clients ou pas assez de clients. Donc forcément, Joe Burrow, il se régale.
Bon, après, Atlanta n'est pas reconnue pour son pass rush, pour sa défense,
ouais,
ni pour son jeu aérien. bon, parce qu'il y a aussi ça, ils ont gagné que 214 yards au total.
Ouais.
Greg, est-ce que Desmond Ridder s'est lancé un ballon? Parce que ça pourrait être bien d'avoir un mec qui peut filer la gonfle un peu à Kyle Pitts et Drake London.
Écoute, moi, j'en ai discuté en off avec certaines personnes. On me dit que Desmond Ridder, ça changera pas fondamentalement par rapport à Marcus Mariota. J'ai quand même des sérieux doutes par rapport à ça, parce que je pense que c'est compliqué de faire moins bien que Marcus Mariota ces dernières semaines. Il fait combien? Il fait 123 yards sur cette semaine-là encore, dont
124,
une passe de 72,
ouais,
à peu près, enfin,
oui,
plus de 70
oui,
yards.
Donc, 75
c'est,
même.
Voilà, c'est dire clairement le néant total. De toute façon, maintenant, les défenses s'adaptent, les coordinateurs s'adaptent. Et attendre Atlanta principalement au sol, c'est même miraculeux qu'Atlanta arrive encore à gagner des matchs, sachant que de toute façon le seul biais par lequel ils arrivent à passer, c'est le jeu au sol. Il y a Kyle Pitts et Drake London qui sont deux top 10 de tes dernières drafts, qui du coup ne sont quasiment pas utilisés. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on croit que Atlanta peut se battre pour les playoffs, mais pour faire quoi? Oui, ils sont co-leaders de la division, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais oui, je pense qu'en l'occurrence, il va falloir tester Ridder à un moment donné, parce que de toute façon, Arthur Smith démontre clairement dans ses choix qu'il ne fait pas pleinement confiance à Marcus Mariota. Donc je pense que voilà, même si Mariota peut être un game manager, j'allais dire plus, mais faut pas déconner, moins plus.
Mmh.
Voilà, ça me paraît trop limité aujourd'hui pour compenser justement les défaillances défensives dont parlait Lucas.
À eux deux, Kyle Pitts et Drake London, c'est 4 réceptions pour 18 yards.
C'est ça, tout va bien.
On est pas mal. Lucas, est-ce que tu veux ajouter un truc ou est-ce que je passe à la suite?
Ouais, non, c'est trop unidimensionnel pour faire quoi que ce soit en ce moment. Il va falloir évoluer, en effet.
Ravens 23, Browns 20. Les Ravens menaient 20 à 10. Et vous savez ce qui se passe quand les Ravens mènent 20 à 10 cette année. Hein. Les Browns ont marqué un touchdown pour revenir à 23-10 pour Baltimore, puisqu'ils avaient remarqué un field goal dans l'intervalle. Les Ravens ont perdu un fumble à 3 minutes 20 de la fin. Balle de match pour Cleveland, sauf que les Browns se sont tirés une balle dans le pied avec deux pénalités. Une qui annule un touchdown, la seconde qui les fait reculer pour le field goal. Et Kate York qui manque donc le field goal de l'égalisation à 60 yards. Ils se sont fait très peur, Baltimore, encore une fois. Mais ça gagne. seulement 254 yards pour les Ravens. Toute petite fiche à la passe pour Lamar Jackson, 9 sur 16, 120 yards. Ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Pourquoi ils peinent autant en attaque, Lucas ?
J'ai l'impression qu'on a retrouvé les Baltimore Ravens de il y a quelques années avec une grosse défense, ou en tout cas une défense un peu meilleure que ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la saison. Et par contre, beaucoup moins de jeux aériens que ce qu'on a vu depuis le début de la saison, beaucoup plus de jeux au sol. Alors, est-ce qu'ils galèrent vraiment? Je sais pas. Ils marquent tout de même 23 points. Après, ils ont du mal à finir. Ils ont vraiment du mal à finir parce que là, ils ont un drive qui prend de nombreuses minutes. Justement, ce drive-là qui se termine par un fumble. S'ils marquent ce touchdown-là, notamment grâce au sol, ils vont loin et puis plus personne les rattrape et ils finissent et puis on se dit qu'ils font un très bon match. Là, c'est vraiment le problème d'arriver à être clutch, d'arriver à être bon vraiment sur les derniers instants. Alors là, ils s'en sortent presque miraculeusement. Tu l'as dit, c'est un field goal manqué avec notamment des flags et des mouchoirs pénalités qui obligent Cleveland à reculer, qui rendent le field goal un peu plus compliqué. Mais donc Baltimore s'en sort. Après, est-ce qu'ils sont sensiblement mauvais en attaque? Je sais pas. Ils sont pas forcément mauvais. Ils retrouvent de vieilles habitudes avec un Lamar Jackson qui court quand même très très bien. Il va falloir arriver à mixer les deux. Je trouve qu'en tout cas, c'est vrai qu'ils arrivent pas encore à mixer les deux. Soit sur 2-3 semaines, ils sont très bons dans les airs et puis après ils sont bons au sol. Ils ont pas montré encore un match où ils sont bons des deux côtés.
Après, c'est peut-être l'anomalie. Il a lancé au moins 29 passes sur tous les premiers matchs Lamar Jackson, sur les 6 premiers. Là, il en lance 16. Bon, c'est peut-être une anomalie, Greg, non ?
Ces dernières semaines, il est moins hot que, en tout cas, les premières. Ça, on peut s'accorder là-dessus. Alors, c'est un match qui me laisse très perplexe, notamment parce que, alors déjà, c'était pas un beau match, très clairement, hein, malgré les 43 points sur le tableau d'affichage, mais aussi parce que j'ai vraiment été assez circonspect par les play calls. Hein, on en revient à ça. On a l'impression que chaque coordinateur avait son plan de jeu offensif et a dit « je n'en changerai pas ». Cleveland, ils sont spécialisés dans le jeu au sol, mais on a voulu exploiter les failles contre la passe de Baltimore avec Jacoby Brissett, hein, qui on le sait n'est pas du tout une machine à turnover depuis le début de la saison. Hein. Je sais que ça va faire plaisir ce que je vais dire, mais je pense qu'il y en a de plus en plus du côté de l'Ohio qui attendent l'arrivée de le retour de Deshaun Watson à l'issue de ses 11 matchs de suspension, parce que malheureusement avec Jacoby Brissett, il y a toujours des pertes de balles un petit peu fatales en l'occurrence pour les Browns. Et puis de l'autre côté, on a Baltimore qui s'est dit, bon, les Browns depuis le début de la saison, le run stop, ça va pas passer, donc on va insister. 44 courses, alors je veux bien, ils font plus de 160 yards à l'arrivée, mais ça fait moins de 4 yards par portée quoi du côté de Baltimore. Et pourtant, Gus Edwards fait un bon match et Lucas l'a dit, Lamar Jackson a apporté sa polyvalence. Donc en fait, il y a eu cette espèce de, j'allais dire, de jeu de dupe où on a essayé d'attaquer les points faibles adverses presque en n'exploitant pas ses propres forces. Et à l'arrivée, voilà, on l'a dit, mais oui, la défense de Baltimore a réussi à créer des turnovers décisifs, à faire des jeux décisifs pour permettre à Baltimore de s'imposer. Mais on est presque à se demander si c'est plus Baltimore qui a gagné ce match ou Cleveland qui s'est encore une énième fois tiré une balle dans le pied, parce que ça fait beaucoup de matchs qui laissent filer dans les dernières secondes. Voilà, un pur match AFC Nord hein, qui joue dans les dernières secondes, mais en tout cas, ça fait du bien pour la confiance pour Baltimore. On est quand même assez inquiet par le contenu des Ravens ces dernières semaines.
Clairement, du côté Browns, on se demande pourquoi ils n'ont pas plus couru. Enfin, c'est quand même
Mais le symbole, c'est cette 3e-and-2 sur Amari Cooper qui, en fin de match, sur ce dernier drive, qui, bon, il est sanctionné d'une interférence de passe offensive à Amari Cooper, qui en plus fait reculer cette équipe-là. Mais au-delà de ça, 3e-and-2, Greg l'a dit, ils affrontaient une équipe qui avait du mal dans les airs. Ok, ils ont voulu tenter ça, mais il n'a pas précisé qu'en plus, à Cleveland, il y a un des meilleurs running backs de la ligue, si ce n'est le meilleur actuellement. Et quand on voit qu'on ne court pas, parce qu'une équipe qui ne court pas, quand il y a une ligne offensive en difficulté et un running back bidon, ok, pourquoi pas, on fait ce qu'on peut. Mais quand on a un running back qui est peut-être le meilleur joueur offensif de cette équipe, c'est dommage de ne pas lui donner le ballon. Donc c'est vrai que ça, c'est parfois incompréhensible.
Et puis, 3e-and-2 à ce stade du match, en plus tu sais que tu pourras jouer la 4e probablement, t'es en terrain adverse.
Bah là, c'est clairement une situation où il y a deux tentatives pour prendre.
Oui, au pire, tu vas chercher le inches, quoi. Mais après voilà, ce qui est aussi dommage pour Cleveland, c'est qu'il y a une bonne carburation entre Brissett et Njoku depuis quelques semaines, et Njoku sort sur blessure si je me trompe pas. Donc c'est sûr que ça n'est
pas
non
pas
plus
trop grave.
Oui.
A priori pas trop grave. Titans 19, Colts 10, en parlant de pas très joli match. Deuxième match et deuxième victoire des Titans contre les Colts cette saison. Ah, excusez-moi. Alors on fait une bise à Victor Roulier hein, qui avait voulu que ce soit l'affiche de la semaine dans le podcast de preview, mais là bon, rien que dans la rédaction, dimanche soir, il a eu quelques inimitiés. Hein. Il y a des gens qui lui en ont voulu. Alors, j'allais dire, j'ai commencé à préparer l'émission avant la nouvelle que Sam Ellinger serait titulaire, et j'avais noté, faut-il croire que Matt Ryan ne serait pas de retour ? Bon, bah là, je crois qu'on a eu la réponse. En parlant de plan de jeu alambiqué,
ouais. Ah,
17 courses pour 44 passes quant à Jonathan Taylor d'un côté et Matt Ryan de l'autre.
N'est-ce pas ?
C'est original.
C'est original. On peut faire un copier-coller de ce que je viens de dire tout à l'heure.
Exactement. Taylor est à 5,8 yards par course hein, quand il a le ballon. Je dis ça au cas où ça puisse servir à Frank Reich. Oui, à Frank Reich.
Non, mais c'est...
Là,
Vas-y.
Alors, du coup, on est plus dans le constat parce que maintenant, on sait que Sam Ellinger va récupérer le poste. Deux interceptions pour Ryan, un fumble perdu contre, pour Pittman. Le résultat, c'est qu'ils perdent contre des Titans qui sont à 254 yards en attaque. Bon, voilà, c'est la... il y a eu une éclaircie pour Matt Ryan la semaine dernière, mais il fallait que ça arrive au bout d'un moment. Alors, je pensais pas qu'il serait mis sur le banc, hein, honnêtement, tout de suite.
Alors, encore une fois, moi, j'ai mon avis sur Matt Ryan, mais encore une fois, ça va même pas être un avis subjectif, ce que je vais dire. Mais... Et ça en revient, alors c'est sur ce match, mais c'est aussi sur le début de la saison, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de Frank Reich et du coaching staff des Colts ? J'avais dit en début de saison, parce qu'on avait fait la preview sur les Colts, hein, où je m'étais d'ailleurs...
On s'était frité sur les receveurs.
Voilà, exactement, on m'avait dit, voilà, c'est une escouade de receveurs, bon, peut-être pas pourri, mais en tout cas, voilà, sans joueurs vraiment établis, etc., etc. Le point sur lequel, globalement, j'étais pas en désaccord. Mon point était de dire... Matt Ryan peut être un bon apport aux Colts dans le système offensif utilisé par Indianapolis ces dernières années. Où est passé ce système offensif ? Parce que manifestement, Frank Reich, du jour au lendemain, il s'est réveillé, il a fait « Ah, dis donc, j'ai le Matt Ryan de 2016. » Et donc, ils lui font lancer 40 ballons par match.
C'est un délire. On dirait qu'ils ont décidé de l'envoyer dans le mur.
Non,
quand tu regardes les stats, je te fais les matchs dans l'ordre, hein, depuis le début de la saison, le nombre de passes qu'il a lancé. 50, 30, 37, 37, 41, 58 et 44.
Mais c'est du délire. Franchement, encore une fois, je pense que l'année dernière, Matt Ryan, on voyait la différence à Atlanta, mais il avait quelques restes en attaque, mais il avait quelques restes dans les airs. Mais je veux dire, on sait que principalement, ça peut être aujourd'hui plus un game manager qu'un joueur qui prend le jeu à son compte. Pourquoi tu le fais jouer comme ça? Et là, encore une fois, tu le dis, Jonathan Taylor revient. Il y a une ligne offensive, notamment sur les extérieurs, qui est moins bonne parce que forcément, tu remplaces pas Anthony Castonzo aussi facilement. Mmh. Et tu joues pas sur ton point fort de ces dernières années. Enfin, franchement, je ne comprends pas. Et là, juste termine mon point et je te laisse rebondir à un. Sam Ellinger, qui manifestement, donc, va le remplacer. Donc, visiblement, il est préféré à Nick Foles, si je comprends bien. À moins que Nick Foles soit blessé et que j'ai loupé une info.
Ouais, non, il est préféré, oui.
Voilà. Donc, ils vont mettre Sam Ellinger. Donc, du coup, il y a deux possibilités. C'est ou un, ils tankent, sachant qu'ils sont à 3 victoires, 3 défaites et 1 nul, ce qui pour moi n'est pas un bilan catastrophique pour aller en playoff à l'heure actuelle dans une AFC qui est extrêmement disputée. Deuxième possibilité, ils pensent qu'Ellinger est une meilleure solution. Bah, j'ai hâte de voir Ellinger lancer 40 fois par match.
Peut-être qu'ils vont changer de plan de jeu.
Ah bah oui, mais à ce moment-là, c'est compliqué. Alors à ce moment-là, c'est oui, tu le disais, ah bah, c'est un plan,
d'accord,
Ryan.
Lucas... Ok, Matt Ryan n'a plus le niveau, mais c'est vrai qu'il n'a pas été aidé par ce plan de jeu. Quoi.
Ah bah clairement pas, c'est ce que je dis, on peut faire un copier-coller, c'est incompréhensible d'avoir un running back, comme l'a dit Greg, qui est la meilleure arme offensive, le meilleur joueur offensivement de cette équipe-là. Clairement, c'est pas Matt Ryan qui est meilleur que Jonathan Taylor, donc autant lui donner le ballon, et quitte à lui donner le ballon, à lui surdonner le ballon, si ça doit passer d'une façon, ça passera cette façon-là. On a bien vu que Matt Ryan, ça pourra plus passer avec Matt Ryan, donc de l'autre côté, ils ont bien compris. Hein, ils ont un Tannehill qui est pas forcément très bon. Est-ce qu'il est bien meilleur que Matt Ryan? Il perd un peu moins de ballons, mais il est pas bien meilleur que lui. Mais par contre, ils ont un Derrick Henry qui est surchargé de ballons. On lui donne, et on se dit que ça va bien passer. Alors oui, il y a la défense de l'autre côté qui fait du bon boulot, mais du côté des Titans, au moins le plan de jeu, il est clair et il s'appuie sur les forces. Ben là, les Colts devraient s'en inspirer.
Oui, pour le coup, les Titans, ils ont fait un match très Titans, mais eux, ils savent jouer sur ce qui marche et ce qui marche pas sur le moment. 138 yards au sol pour 132 dans les airs. Donc eux, ils ont clairement compris que c'était pas dans les airs que ça se joue actuellement. Leur défense est là. 8 pressions, 6 quarterback hits et un sac pour Bud Dupree, hein, au passage. Derrick Henry fait le taf au sol. C'est un match sans histoire quasiment pour les Titans, parce que pour le coup, eux ont vraiment fait ce qu'ils savent faire. Et clairement, le jeu aérien, là, pour le coup, est l'axe de progrès, hein, pour cette équipe. Mais ils sont en tête de la division. Et c'est la seule équipe en positif dans cette division, d'ailleurs.
Oui, bah écoute, je vais pas répéter ce qui a été dit, hein, je suis à 100% d'accord avec Lucas, la différence s'est faite parce que c'était mieux coaché. Pourtant, je suis pas un fan de Mike Vrabel, hein, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais là, en l'occurrence, voilà. Tennessee est bien coaché et Tennessee joue sur ses points forts pour aller chercher des victoires, capitaliser et s'assurer la AFC Sud, au moins dans un premier temps, le plus rapidement possible.
Et ça fait 4 victoires consécutives alors qu'ils avaient commencé à 0-2. En effet, c'est pas très beau, mais ça gagne. Et puis l'année dernière, c'était un peu pareil. Bon, ils ont chuté en play-off, mais l'année dernière, c'était un peu pareil. On comptait pas trop sur eux, et puis ils continuent à gagner des matchs. Donc, grand bien leur en face.
Mike Vrabel, c'est le pragmatique parmi les pragmatiques. Hein.
Alors, on sent qu'il a été à l'école Belichick. Hein.
Ouais, ouais. Ça
mais en même temps,
on peut pas blâmer
des coachs en leur disant qu'ils sortent un peu de leur zone de confort et en leur disant qu'ils font un peu n'importe quoi et qu'ils pourraient jouer sur et après blâmer un coach qui sait ce que son équipe vaut et surtout ce que son équipe vaut pas. Donc s'il arrive à gagner des matchs pour l'instant, ça gagne, donc autant continuer.
Bien sûr.
Clairement. Dolphins 16, Steelers 10, pas vraiment un grand match, mais les Dolphins stoppent une série de 3 défaites et repassent en positif. Un touchdown sur le premier drive et ensuite ils ont ralenti au point de ne pas marquer du tout en seconde mi-temps. Miami a intercepté Kenny Pickett, pardon, 2 fois en fin de match pour assurer la victoire. Faut se concentrer sur la prestation défensive et se réjouir ou sur le premier drive. C'est une victoire, mais c'est une victoire contre des Steelers qui sont quand même ultra limités, on le sait. Lucas, tu retiens quoi de ce match pour Miami?
Bah, c'est vrai que quand on regarde le début de match, on est emballé. On se dit que Tagovailoa est de retour. On se dit, ah, c'est vrai que cette équipe-là, elle est vraiment différente quand le quarterback-là est là. On s'en rappelle, ça fait quelques matchs qu'il n'était pas là et c'était en effet un peu plus compliqué. Et puis en effet, il y a une très belle adaptation tout de même des Steelers, il faut le dire. Pittsburgh qui s'est très bien adapté, notamment grâce à son coach, les linebackers notamment qui ont changé un peu de plan de jeu et qui ont réussi à stopper un peu mieux cette attaque de Miami. Donc il y a eu une adaptation. Après c'est vrai que Miami a été plus en difficulté en fin de match, enfin sur cette fin de match offensivement. Après la défense est toujours là, la défense est bonne face à une équipe de Pittsburgh qui est pas très bonne en attaque, mais au moins elle est là, elle fait le travail dans une AFC Est qui est assez relevée du coup parce qu'il y a Buffalo et New York qui continuent de gagner des matchs même si Buffalo était en repos. C'est bien pour Miami de gagner ce genre de match là.
Grégory, est-ce que tu es enthousiaste pour ces Dolphins?
Bah, enthousiaste, non, mais je vais revenir un petit peu sur le point qu'on expliquait pour Tennessee, c'est-à-dire que Miami, si j'ai bonne mémoire, avait commencé par 3 victoires, ils étaient sur une série de 3 défaites. Déjà, le plus important, c'était de repartir dans le bon sens, justement, en effet, comme le disait Lucas, pour repartir dans cette bataille pour l'AFC Est et pour la qualification en vue des playoffs. Donc voilà, on a fait un peu du Dolphins 2020-2021 en misant avant tout sur la défense et sur quelques fulgurances, notamment de Tagovailoa en début de match. Encore une fois, on ne sait pas si Tagovailoa est vraiment revenu à 100%. En tout cas, face à une défense comme celle des Steelers, même s'ils sont un peu plus permissifs contre la passe, fallait malgré tout assurer le coup et limiter les pertes de balles, ce qui n'a pas été le cas notamment de Kenny Pickett en face. Oui, bah il y en a. Lucas.
Non, je fais la moue parce que il a en effet limité les pertes de balles. Tu as Tagovailoa.
Oui, il y a aussi des
vraiment
des
merci. Trois, voire quatre. Je sais pas combien exactement il y en a qui sont comptés.
Quatre, ouais. Il y en a
quatre qui vraiment. Je pense que même moi, il y en a une ou deux que j'attrape. Hein.
C'est possible. On sait que tu as des bonnes mains.
Oui, c'est Mike Tomlin nous écoute d'ailleurs.
Je dis ça.
Bah, et puis. Non, mais moi je suis d'accord. Enfin, c'est dur parce que. Moi, j'ai envie d'être positif en disant, bon, il se remet en route, l'important, c'est qu'il gagne. Il y a des yards, il y a des trucs. Après, ouais, il y a ces quatre quasi-interceptions qui sont quand même très, 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 très... Enfin, s'ils en prennent une ou deux, on n'a pas la même discussion, quoi. Donc bon. Moi, j'ai envie de dire, juste, l'important, c'est de gagner. Il a gagné, il est revenu. C'est le plus important pour cette équipe de Miami. Ils ont manqué beaucoup d'efficacité sur les troisièmes tentatives, dans la zone rouge. Je peux mettre ça sur le compte de la roue. Il revient après 2-3 semaines d'absence. Voilà, bon, on va donner ça là-dessus. Du côté de Pittsburgh, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose. Ils n'ont toujours pas atteint les 20 points cette saison. Et on a du mal à voir comment ils peuvent progresser, en fait. Parce que, Greg, je sais que Najee Harris, par exemple, était un de tes chouchous, mais dans les conditions où il travaille...
Il fait toujours pas la peine de parler au passé.
Pardon. Mais dans les conditions où il travaille, c'est dur de s'exprimer.
Ah, ça, c'est sûr que c'est laborieux. Oui. Je pense que la ligne offensive, va falloir à un moment donné se pencher clairement dessus. Mais oui, tu l'as dit, il y a toujours pas de jeu au sol et il y a plus de pass rush. Donc c'est quand même deux secteurs où malheureusement c'est compliqué d'exister, surtout en l'occurrence face à une équipe de Miami qui peut être dangereuse dans les tranchées et qui peut en l'occurrence faire le minimum syndical, on va dire, pour essayer d'être tranchant défensivement. Donc ce qui a été le cas sur ce match-là, mais oui, ça peut être assez compliqué. Ils sont déjà à 2-5 les Steelers. Donc on a vu qu'ils étaient capables de coups d'éclat comme la semaine dernière contre Tampa, mais Le retour de TJ Watt va faire le plus grand bien, a priori.
Oui, bah, il est espéré, mais c'est vrai que pour le reste, c'est les pires conditions en plus pour un quarterback rookie. Mmh. Si t'as pas de pass rush, t'as pas de ligne.
De toute façon, on se doutait que c'était une année de transition, et voilà. La preuve, hein, la meilleure connexion de Kenny Pickett, c'est un receveur rookie avec George Pickens. Donc voilà, faut préparer l'avenir du côté des Steelers. Faut se conditionner à ça pour cette saison 2022.
Petite pause, et on finit avec les 5 derniers matchs.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Les Jaguars recevaient les Giants et c'est une victoire des Giants, 23 à 17, 6 victoires pour les Giants et un 7e match qui se joue à moins d'une possession, c'est toujours très serré. Ils l'emportent en stoppant Christian Kirk à 1 yard de la end zone sur la dernière action, fin de match assez dingue. Jacksonville avait cette balle de match grâce à deux pénalités qui ont prolongé le drive d'une manière qu'on pourra juger généreuse notamment. L'action est symbolique, la défense des Giants a plié mais elle n'a pas rompu, ils prennent 452 yards mais seulement 17 points. C'est le plus important maintenant d'être décisif en défense dans les moments chauds. Et j'ai l'impression, Lucas, que c'est un peu symbolique de cette équipe.
Exactement, exactement. On dit assez souvent que quand une équipe elle perd beaucoup de matchs, notamment de manière serrée, on se dit c'est plus un hasard et cette équipe-là, elle ne sait pas gagner. Il faudrait dire la même chose quand c'est de l'autre côté. Quand ça fait plusieurs matchs qu'elle gagne de manière serrée sur des actions comme ça, c'est plus un hasard, c'est plus de la chance. Alors oui, ça s'arrête sur un yard ici, et c'est un yard ce qui fait la différence. Mais c'est plus de la chance quand c'est récurrent comme ça, quand c'est quasiment toutes les semaines. On est à 6-1. Ça devient quelque chose. Ça devient une identité de cette équipe. Là, on le dit depuis assez longtemps, pour commencer à croire que les Giants savent gagner des matchs serrés. Et quand on sait gagner des matchs serrés, c'est le plus dur qui est quasiment fait. Alors, en plus, mentalement, ils sont très costauds. Tu l'as dit, il y a ces mouchoirs de pénalité qui sont généreux, qui auraient pu les faire couler. Et ben, ils sont toujours présents. Ils arrivent à stopper au dernier moment. Ils savent gagner. Franchement, ils sont à 6-1, qui l'aurait cru, en effet. Mais voilà, ces matchs-là, ils sont plus à gagner, quoi. Et ça donne de la confiance de plus en plus. Et on le voit, cette équipe-là, elle a déjà commencé avec pas mal de confiance, elle en a encore plus et ça devient dangereux.
Les deux équipes ont beaucoup manqué d'efficacité dans les 20 yards adverses, 1 sur 5 dans la zone rouge pour les Giants, 2 sur 5 pour les Jaguars. Daniel Jones qui a marqué le touchdown, qui a mis son équipe devant dans le dernier quart, il termine à 19 sur 30 pour 202 yards, un touchdown et surtout 107 yards et un touchdown au sol. Greg, est-ce que Brian Daboll est en train de le réparer ?
Manifestement. Après, il faut... J'allais dire, il faut qu'il se développe un petit peu plus dans le domaine aérien, mais encore une fois, il y a peu, voire pas de receveur, si je veux être mauvais esprit, même si on voit que le rookie Wendell Robinson est un peu plus sollicité. Je pense que l'affiche de Darius Slayton aurait pu être un peu plus flatteuse ce week-end sans quelques drops un petit peu fâcheux. Et c'est vrai qu'on prenait l'exemple des Chargers tout à l'heure, mais les Giants, ils vont quand même réussir à gagner en perdant leur tight end titulaire, le rookie Daniel Bellinger, et en perdant leur tackle titulaire, Evan Neal, qui est pas le plus constant depuis le début de la saison, mais qui en tout cas est un solide titulaire. Donc voilà, malgré cela et malgré une identité en effet qui est assez bien identifiée, à savoir du jeu au sol à outrance et un Daniel Jones, et c'est principalement là, concrètement, que Brian Daboll l'a réparé, c'est au niveau des pertes de balles, hein. On sait que c'était son péché plus très mignon au cours de ces dernières années, et là clairement il limite à ce niveau-là, enfin dans des proportions beaucoup plus beaucoup moins importantes que ces dernières années, et voilà, avec un Saquon Barkley qui est enfin à 100%, pour l'instant tout sourit. Mais c'est vrai que voilà, on va pas bouder son plaisir du côté des Giants. C'est vrai que voilà, j'aurais du mal à être hyper enthousiaste vu le nombre de victoires sur le fil. Mais en attendant, c'est pareil, ça reste opportuniste. Et au vu de l'effectif qui était en place, je trouve que voilà, ça reste une équipe qui est solidaire et qui arrive à faire front quand il faut le faire. Donc voilà, c'est de bonne augure pour se qualifier encore une fois dans une NFC où il y a beaucoup d'équipes, mine de rien, avec des fiches négatives à la, quasiment à la moitié de la saison.
Là, ils prennent beaucoup d'avance hein, dans la course au play-off. Saquon Barkley, 110 yards sur 24 courses. Clairement, il est de retour. 4 réceptions, 25 yards. Il est en très grande forme. J'ai parlé de Daniel Jones, mais en effet, le jeu est basculé vers le sol hein, du côté de New York. 236 yards au sol pour 202 à la passe dans ce match. Ils sont souvent menés 75-53 contre eux en première mi-temps cette année. Et pourtant, ils s'en relèvent toujours. C'est quand même assez incroyable. De l'autre côté, les Jaguars, c'est un peu l'inverse. On a toujours cette impression que peut-être, enfin, il pourrait se passer quelque chose. Et puis finalement, là, c'est pareil. On a eu quelques coups d'éclat. Travis Etienne, 114 yards, un touchdown. Mais il y a un ballon perdu. Mais il n'y a pas la finition. Mais il y a l'inefficacité. Et là, ça commence à faire du surplace aussi, Lucas. Je vois que tu fais la moue quand tu parles des Jaguars.
Ouais, en fait, je fais la moue parce que quand on regarde froidement les statistiques de ce match-là, si on ne l'a pas particulièrement vu, on regarde les statistiques, on voit que des statistiques qui sont globalement similaires. Il y a, je regardais 27 first down des deux côtés. Ils sont, les Giants sont à 6 sur 12 sur troisième tentative. Les Jaguars à 6 sur 13. Il y a 430 yards d'un côté, 450 de l'autre. Globalement, on se dit, c'est un match assez équilibré. La différence, elle se fait où? Elle se fait sur ce, sur cette dernière action notamment, mais sur des actions décisive, là où les Giants arrivent à le faire en fin de match, tu l'as dit, et les Jaguars, à l'inverse, eux n'arrivent pas particulièrement à le faire. Après, c'est une construction d'équipe. Manifestement, Jacksonville est plus loin que New York dans cette construction d'équipe. On pensait pas forcément dire ça en début de saison, parce que peut-être que le quarterback faisant, on se disait que Jaguars était peut-être plus avancé, et finalement, on se rend compte que non, parce que tout le reste est un peu plus avancé du côté de New York, et en effet, Jacksonville, ben, il y a eu quelques coups d'éclat cette saison, je pense qu'il y en aura d'autres parce que Travis Etienne est bon, Trevor Lawrence est foncièrement bon aussi, mais voilà, il va falloir prendre plus de temps. C'est peut-être une équipe qui va se construire plus lentement que d'autres, et quand on affronte cette équipe des Giants, c'est vrai que la comparaison est difficile.
Cowboys 24, Lions 5, la défense des Cowboys qui a massacré les Lions. Les Lions ont perdu 5 ballons rien qu'en deuxième mi-temps. Ça a permis à Dak Prescott de revenir tranquillement, 19 sur 25, 207 yards, un touchdown. C'était poussif au début. On parlait de remise en route pour Miami tout à l'heure. C'était poussif au début. Mais pour le coup, eux, ils sont restés dans leur registre. Il y a eu du jeu au sol, il y a eu de la défense. Dak Prescott se remet tranquillement. 19 sur 25, c'est très très propre. Grégory, match quasiment sans histoire, non, pour Dallas?
Non, oui et non. On a quand même eu une première mi-temps assez poussive hein, de la part de Dallas. On était clairement sur...
Bon, il revient...
Non mais je veux bien qu'il revienne. Après, si tu me poses la question, moi je te le dis, c'est vrai que
pardon,
la première mi-temps, je l'ai ressenti. Non mais je l'ai ressenti comme ça. Après, c'est sûr que si on regarde sur la durée, on s'aperçoit que oui, en effet, Détroit, ça reste trop limité. Et face à une défense de la cabine de celle qu'a Dallas, ça devient vite rédhibitoire pour l'attaque de Détroit de réussir à tenir la distance. Mais en tout cas, je trouve que la défense des Lions a mis en difficulté l'attaque de Détroit, notamment en première mi-temps, avec un peu de réussite aussi. Hein. Il y a ce fumble de Noah Brown, par exemple, qui est un peu malheureux devant l'embute. Il y a des choix qui sont pas forcément très judicieux. Et tu le disais, en effet, il y a une remise en route qui était aussi nécessaire pour Dak Prescott. Mais voilà, encore une fois, c'est pas toujours flashy Dallas sur l'ensemble d'un match. Mais en tout cas, voilà, ça reste appliqué. Il y a une défense c'était quoi la stat que j'avais vue? C'est l'équipe qui concède le moins de touchdowns, je crois, cette saison. La défense concède le moins de touchdowns depuis le début de la saison. Et en l'occurrence, même la ligne offensive sur laquelle on pouvait avoir des doutes avec le départ de Lael Collins, la blessure de c'est Tyson Smith. J'ai un doute sur le prénom.
Tyron Smith,
merci. Je savais bien que je me plantais là-dessus. On voit que la ligne offensive, en tout cas, s'améliore, se développe comme il faut. Donc, notamment sur le jeu au sol principalement, hein, parce que c'est là qu'elle a dû se débrouiller ces dernières semaines. Donc voilà, je vais pas te dire qu'ils ont frôlé la défaite contre Détroit, ce serait complètement stupide. Mais voilà, il y a eu plus une réaction que vraiment un match pris par le bon bout d'entrée, quoi.
En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont établi leur identité en l'absence de Prescott. Il revient, il a à se poser là, mais en fait, ça limite la casse, même s'il n'est pas à fond dès le début. Et puis derrière, une fois que ça a pris le rythme,
oui, bien sûr, bien sûr.
Ça ronronne, mm-hmm. quoi. Les Lions qui continuent de creuser, Dan Campbell avait déjà dit qu'ils avaient touché le fond il y a quelques semaines. Alors, je ne sais pas quoi dire, du coup, là, hein, sur leur match, parce que plus bas que toucher le fond, bon, on a... mais après, c'est peut-être bien, parce qu'ils vont trouver des ressources dont on manque en ce moment. Hein. D'ailleurs, ils étaient à Dallas, donc s'ils ont bien creusé, ils ont peut-être trouvé du pétrole. Hein. Ça, c'est quand même l'avantage d'aller toucher le fond au Texas. Mais après, en vrai, je sais pas où ils en sont. C'est-à-dire que, clairement, moi, Lucas, est-ce qu'il est temps de tourner la page, que ce soit le coach et le quarterback ? Peut-être pas maintenant, mais à la fin de l'année, c'est évident, quoi.
Bah, ils ont pas beaucoup de pétrole et pas beaucoup d'idées non plus. Hein. C'est vrai que c'est compliqué pour Détroit. Je vois Greg qui fait des énormes yeux quand tu as parlé du coach. Mais c'est vrai que quand on, alors oui, Dan Campbell, il a ce côté un peu flashy, un peu qu'on a envie d'aimer parce que il avait fait notamment cette conférence de presse. Il avait fait quelques matchs où on se disait, ah, peut-être pourquoi pas Détroit. Puis finalement, quand on prend son bilan un peu de manière froide, je l'ai pas en tête, mais il est quand même pas très bon. En termes de victoires et de défaites, et c'est vrai que il y a du mal, on voit pas trop comment ça pourrait progresser. Alors oui, là sur ce match dimanche, il y a Amon-Ra St. Brown qui est pas là, ça complique beaucoup la tâche de l'escouade offensive. Mais bon, avec Jared Goff qui perd énormément de ballons, je crois qu'il y a 5 perte de balles dans ce match-là, c'est beaucoup trop. Alors oui, la défense de Dallas est responsable de pas mal de ces turnovers parce qu'elle est très bonne. On parle beaucoup de Mika Parsons, mais il y a beaucoup de joueurs autour, et cette défense-là, comme le disait Greg avec cette statistique, elle est quand même très bonne. Donc c'est compliqué de jouer contre elle, mais c'est vrai que Détroit ne montre pas grand-chose. Ils ont un peu explosé en attaque en début de saison, mais ils enchaînent des performances un peu plus compliquées. Il y a eu 0 point contre les Patriots. Ça donne pas vraiment envie. Alors de là à tout balayer, je sais pas, mais il va falloir se poser des questions.
S'ils ont un premier choix ou un choix de draft très haut et qu'il y a autant de bons quarterbacks qu'on le dit,
pour le quarterback, oui,
pour plein de trucs, il va falloir faire le tri. Mais non, mais Dan Campbell, il est sympatoche et tout, mais il est à 4 victoires, 18 défaites et 1 nul.
Voilà, ça, c'est sûr qu'il est sympatoche. Ouais.
Voilà, c'est un grand bonhomme sympathique. Hein. Il fait 1m96, 120 kilos. Je vous laisse imaginer, c'est une montagne d'amour. Mais bon, à côté de ça, ça fait pas une équipe, quoi. Donc,
c'est ça.
Greg, alors là, tu faisais l'amour pour quoi, du coup? Pour Dan Campbell, pour les quarterbacks, pour Jared Goff?
Tu sais que c'est ma marque de fabrique, un peu, de faire l'amour. Non, je pense que pas, clairement, alors je sais pas, c'était plus sur le fait de virer le coach dès cette saison, c'est là où je sais pas, mais c'est vrai qu'on peut déjà, je pense, tirer des conclusions dès la deuxième année. En effet, voilà, les caractéristiques que t'évoques, ça fait plus penser à un coach de position qu'à un coach en chef, hein. En effet, on a connu des coachs populaires, mais, voilà, je pense que Dan Campbell ne rentre peut-être pas dans cette exception-là. Jared Goff, je l'avais dit au début, peut-être pas le dégager au bout d'une saison après le trade Matthew Stafford, mais voilà, au bout de deux saisons, on voit quand même clairement les limites. C'est dommage parce que si les Lions avaient eu Sam Ellinger, il l'aurait mis titulaire d'entrée. Hein, il l'aurait mis titulaire dès la semaine prochaine.
Non mais après, à la décharge de Goff, évidemment qu'ils souffrent dans leur manque de profondeur. Si Swift et St. Brown ne sont pas là, évidemment qu'ils
souffrent. Oui, mais tu es censé te préparer maintenant. Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Donc au bout d'un moment, tu t'adaptes, voilà. Tu t'adaptes un minimum. Et surtout, tu es capable de proposer d'autres solutions. C'est trop triste globalement ce qu'on voit. Voilà. Alors, au début de saison, on nous disait oui, ils sont capables de prendre feu, de marquer 30-35 points contre les Seahawks. Mais en même temps d'en prendre 40. Et là, on voit que la défense, ils arrivent à resserrer, mais à côté, l'attaque propose plus rien. Donc, à un moment donné, les rencontres soient mieux préparées de la part des Lions. Parce que l'année dernière, ils avaient au moins le mérite de s'accrocher et de perdre dans les dernières minutes. C'est même plus forcément le cas aujourd'hui.
Les Broncos 9, Jets 16. Les Jets qui gagnaient avec Breece Hall et leur défense, ils ne devront plus gagner qu'avec leur défense, puisque Breece Hall s'est fait les croisés et ne jouera plus cette saison. Alors, il est déjà remplacé. James Robinson est arrivé dans un échange contre un choix du 6e tour qui pourrait se transformer en choix du 5e selon ses performances. Hall qui a marqué un long touchdown avant de se blesser, malheureusement. La défense a géré à partir de là. La question qu'on a envie de se poser quasiment dans ce match, c'est est-ce que ça serait passé si ça n'avait pas été Denver ? Parce que ça a été très limité une fois que Hall n'était plus là, Lucas.
Oui, ça a été très limité. Après, Denver, justement, je sais pas, parce que c'est quand même l'une des meilleures défenses de la ligue quand même. En tout cas, c'est une défense qui est très solide et qui du coup complique la tâche des attaques. Est-ce que ça serait passé ? Non, la question que je me pose, c'est est-ce que ça serait passé sans Breece Hall ? parce que c'est comme ça que vont devoir jouer les Jets dorénavant. Et j'ai envie de dire, je suis pas sûr. Pour avoir fait le résumé de ce match-là, il s'est pas passé grand-chose jusqu'à ce coup d'éclat du running back qui marque un long touchdown et qui est un peu vraiment l'éclair dans cette nuit-là, qui permet de gagner parce que finalement il y a 7 points d'écart, tu l'as dit. Donc sans lui, alors oui, James Robinson est arrivé, oui, Michael Carter est là, mais je suis pas sûr que ce soit du même niveau, ce qui va mettre un peu plus de pression sur Zach Wilson, qui depuis le moment qu'il est revenu, n'apporte pas beaucoup de garanties, ce qui devient du coup un peu inquiétant.
Leur défense va être leur assurance vie, elle l'a été sur ce match-là. Sauce Gardner est ciblé 9 fois, il a autorisé 3 réceptions pour 8 yards. Ils ont pris 3 points sur les 3 derniers quarts.
Ouais, mais une défense bonne sans un coup d'éclat, ça donne Denver, et ça donne des matchs qui sont perdus, quoi.
On est d'accord, parce que Zach Wilson, lui, il a fait le minimum, c'est-à-dire pas perdre de ballon, ce qui est déjà ça, mais il est très limité, 0 sur 5 sur les passes de plus de 10 yards tentés. Et Greg, est-ce que tu vois une amélioration? Parce qu'on cherche des progrès pour ces jeunes quarterbacks, et là, on n'en voit pas.
Bah, j'en vois pas non plus. Après, encore une fois, bon, c'est vrai que on va rester à chaque fois sur la même chose. C'est vrai que sur ce match-là, malheureusement, il n'y a pas que Brice Hall qui se blesse. Il me semble qu'il perd Corey Davis pendant le match, sachant qu'Elijah Moore était officieusement suspendu. Enfin, il y avait une histoire un peu. Enfin, en tout cas,
Même pas officieusement, il veut se barrer et ils lui ont dit qu'il resterait chez lui ce jour-là.
Voilà. Donc, ça aide pas non plus. Hein. Je veux bien que Garrett Wilson soit un rookie prometteur, mais c'est vrai que ça limite aussi les possibilités dans le domaine aérien. Bon, on va voir, mais c'est sûr que c'est clairement pas rassurant. Et en effet, même si la défense progresse au fur et à mesure des semaines, va quand même falloir élever le niveau de jeu pour confirmer en effet ces 4 victoires consécutives du côté des Jets. Voilà, on les a vus capables de prendre feu, mais principalement avec Brice Hall. Donc c'est vrai que là, cette absence-là, malheureusement pour les Jets, c'est un gros, gros, gros coup dur qu'il faudra vraiment réussir à pallier dans les prochaines semaines.
Est-ce qu'on copie-colle l'observation, grosso modo, pour les Broncos? C'est-à-dire que leur quarterback est très limité, leur défense fait le boulot, mais il n'y a pas vraiment de vie en attaque.
Ouais, oui, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est que si on enlève le coup d'éclat des Jets, c'est un peu la même construction d'équipe. Et du coup, Denver, malheureusement, s'en sort pas, alors que, je le répète, ils ont une très bonne défense.
Est-ce que j'ai le droit de labelliser Nathaniel Hackett en erreur de casting, déjà, ou pas?
Ah bah, je pense qu'on l'a fait dès le premier match, non?
Ah, je sais pas, après, au bout du premier match, j'essayais de prendre un peu de recul, hein, mais ouais, là, au bout de 7 matchs, c'est quand même un peu tendu. Donc les Broncos ont perdu 5 matchs cette saison avec une défense qui a concédé une seule fois plus de 20 points. C'est ouf. Pour un head coach qui est un spécialiste offensif, sur le papier.
C'est délirant, et sur ce match, le spécialiste, alors oui, c'était Brett Ripien, hein, le quarterback, hein, mais le spécialiste offensif, du coup, il a gagné. Alors, ils ont gagné 324 yards, j'allais être mauvaise langue, je croyais qu'ils étaient encore sous les 300, mais il y a 225 yards en 46 passes, hein, pour Brett Ripien, donc ça fait peu, et il n'y a aucun touchdown, et il y a un touchdown au sol, mais il n'y a pas de touchdown aérien. Bon, ça, c'est assez limité, malheureusement. Les Patriots, 33, Bears, 14, et une chose très rare à New England, très très rare. Une polémique au poste de quarterback.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, non?
Mac Jones est sorti alors qu'il était à 3 sur 4 pour 13 yards et une interception. Bailey Zappi a relancé son équipe. Finalement, il a été intercepté 2 fois en fin de match. Je dis relancé parce que New England était mené 14-0. Attendez, je vous dis.
10-0.
Était mené 10-0, pardon. Ils sont passés à 14-10 pour eux. Et puis derrière, ils ont fini par ne plus marquer un seul point, donc ça s'est calmé quand même pour Bailey Zappi. Mais c'est vrai qu'il y a eu une petite hype parce qu'il a mené 2 drives de touchdown de suite pour les faire repasser devant. Derrière, ils n'ont pas marqué du tout en deuxième mi-temps et ils ont perdu. Mais au final, il y a une petite polémique. Alors, petite polémique très compliquée parce que Mac Jones revenait d'une blessure à la cheville. Visiblement, c'est du Belichick, donc on ne sait jamais trop, faut interpréter. Il a laissé entendre que finalement, ça pouvait être prévu de faire jouer les deux, etc. C'est du pipeau, parce que soit il est en bonne santé et il joue tout le match, Mac Jones, soit il...
Ouais, voilà. Tu ne fais pas lancer 3 fois Mac Jones, et puis derrière, tu fais « Bon, c'est bon, vous l'avez vu ? Allez, il peut retourner au frigo. » Non, c'est...
Et puis il y a des images de Mac Jones sur le banc qui laissent pas paraître un quarterback qui savait qu'il allait être remplacé plus ou moins dans le match. Hein, quand il dit « je suis dehors », il n'a pas l'air hyper ravi et hyper prévenu surtout.
Mais alors, est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Parce que c'est quand même une gestion très très étrange. Et alors pour le coup, une gestion aussi étrange, on n'est pas habitué à New England. Hein.
Ouais, je vais déjà commencer en faisant mon mea culpa parce que, Alain, je sais pas si tu te rappelles, mais la semaine dernière, on s'était dit qu'il y aurait pas du tout de polémique quarterback et que Mac Jones allait revenir sans souci et que finalement, bah, les Zappi allaient rester sur le banc, qu'il allait même trader d'ici quelques semaines. Finalement, en effet, on est parti sur une petite polémique et c'est vrai que la question se pose désormais parce que, alors, est-ce que c'est bien géré? Je sais pas. Est-ce que peut-être dans leur tête, ils avaient toujours le fait de se dire, bah, il faut que ça soit Zappi qui reste, mais comme Mac Jones est un choix du premier tour, il faut qu'il joue parce que c'est lui et pas quelqu'un d'autre et que finalement ils se disent bon, quand on voit ce qu'il donne parce que Zappi, alors oui ça se calme un peu en fin de match, mais les deux drives qui sont là, pour vous donner une petite anecdote, moi j'ai regardé le match en condensé là le lendemain, vous savez, pour ceux qui ont le Game Pass ils savent ça, c'est les actions qui s'enchaînent très rapidement, j'avais même pas vu que Zappi était rentré et du coup je me dis ah ben ça y est, Mac Jones enfin, il y a un touchdown, c'est sur le drive d'après où il y a une très bonne passe et j'entends le commentateur qui dit qui parle de Zappi, je me dis mais c'est pas possible, je suis revenu voir le drive d'avant pour me dire ah oui il y a eu changement et c'est en effet Zappi qui en fait a donné bonne impression. Donc ça c'est pour la petite anecdote, mais c'est vrai que c'était pour montrer la surprise que j'avais de savoir que Mac Jones était sorti, mais à mon avis la question va se poser encore pour quelques semaines parce que les Patriots n'ont pas l'air d'avoir envie de trancher rapidement.
C'est vraiment étrange parce que Mac Jones fait pas un début de saison abominable, alors oui il y a les 3 interceptions contre Baltimore, mais les 2 matchs d'avant c'est pas non plus une catastrophe absolue. J'ai du mal à imaginer qu'ils mettent au placard un mec qui était 15e choix de la draft l'an dernier, parce que ben, les Zappi a fait de bons matchs, même si en effet il a fait de bons matchs, mais...
Écoute, la politique des Pats cette année, c'est de se compliquer la vie offensivement. Ils se sont dit bon, on a pas de coordinateur offensif officiel, on n'a pas de receveur numéro 1 attitré, on a une ligne offensive qui collectionne les mouchoirs de pénalité depuis le début de la saison. Pourquoi on se rajouterait pas une polémique entre un quarterback titulaire qui est pas à 100% et un rookie? Pour le coup, pour moi, c'est pas compréhensible, surtout que si Zappi vraiment était borderline ces dernières semaines, j'aurais compris le fait de remettre Mac Jones. Je pense que ça aurait pas fait tâche de dire à Jones éventuellement de se préserver et de laisser ou Zappi titulaire ou carrément de dire à Jones bah tu passes à côté, mais au moins on t'envoie un signal clair que c'est toi le numéro 1. Et là, en effet, on est dans un espèce d'entre-deux assez étrange. On a connu en tout cas Belichick. Enfin, si, il n'est pas habitué à faire dans le sentiment, hein. On a déjà vu d'autres situations où il y avait moins de ménagement. Mais ouais, là, en l'occurrence, je trouve que ça rajoute de la difficulté pour pas grand-chose, surtout dans un match, en effet, où au final, tu t'es battu dans les grandes largeurs face à une équipe de Chicago qui a été notamment inarrêtable au sol.
Alors voilà, il faut aussi en venir là quand même. 243 yards au sol pour Chicago, qui a donc mis dans des bonnes conditions Justin Fields et qui surtout semble avoir adapté un peu son cahier de jeu à Justin Fields, qui lance pour 179 yards, un touchdown, une interception, qui court 14 fois pour 82 yards et un touchdown. Ça a l'air d'aller mieux quand même sur l'adaptation à Justin Fields qu'on attend depuis longtemps. Là, la défense a fait son taf relativement en limitant les Patriots à 14 points. Et donc encore une fois, ça a l'air d'aller mieux pour Justin Fields sur ce match-là. Dans le petit jeu de on cherche des progrès au jeune quarterback, Lucas.
Ouais, ça a l'air d'aller mieux pour Justin Fields sur ce match-là. C'est un peu toujours le problème avec Justin Fields. Il y a 2 semaines ou 3, je sais plus, il fait une très bonne deuxième mi-temps. Je crois que c'était face aux Vikings, il me semble. Les Bears perdent, mais on se dit ah ça y est enfin. Et puis la semaine d'après, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours aussi inconstant. Alors oui, là il fait un très bon match. Greg l'a dit et t'as donné les statistiques au sol. C'est très bien. Il a réussi à un petit peu alterner et il a su très bien le faire. Il a prouvé le potentiel qu'il avait. Maintenant, j'aimerais au moins le voir ça sur 2 semaines consécutives avant de me prononcer de manière définitive. Et 2 semaines consécutives, on sait que c'est rien dans la durée d'une saison, voire d'une carrière. Mais on l'a toujours pas vu sur 2 semaines consécutives, donc on va essayer d'attendre.
Je m'enflamme trop, Greg.
Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Lucas. En plus, malgré tout, alors c'est vrai que j'étais assez étonné que les Pats se fassent autant ouvrir, notamment avec l'absence d'un vrai spy, on va dire, sur Fields, hein, dans sa capacité. Enfin, on ne découvre pas sa mobilité très clairement sur ce genre de prestation. Avec l'armée de defensive back qu'ils ont, je pense qu'il y avait quand même largement moyen de le surveiller un peu plus efficacement. Maintenant, voilà, c'est tout au mérite de Fields, sachant que la ligne offensive a clairement souffert, en tout cas, l'a amené à être pas mal bousculé dans sa poche. Donc voilà, il a trouvé les ressources et c'est de bon augure, mais en effet, faut confirmer ça sur la durée et ça, ce sera le plus dur.
On termine avec les Raiders à 38 et les Texans à 20. Duel avec des points entre deux équipes de fond de tableau. Duel de coureurs aussi. 143 yards et 3 touchdowns pour Josh Jacobs. 92 yards pour Dameon Pierce. Est-ce qu'on peut dire que l'attaque de Las Vegas tourne enfin, Lucas ?
Oui, oui, ça commence en tout cas. Ça commence déjà. J'ai envie de commencer en disant que c'était un très beau match pour le coup, parce que c'est quand même. On dit souvent quand c'est des matchs qui sont pas agréables à regarder. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas forcément une opposition qui était hyper alléchante. Et alors que ça donne un très bon match, un match serré, parce que là, le score est très large. Mais je crois qu'à la fin du quatrième quart-temps, il doit y avoir quelque chose comme 20-17. C'était un match serré. Et en effet, l'attaque des Raiders a bien accéléré, notamment grâce à Josh Jacobs, qui, on le sait, était pas forcément dans les plans de McDaniels en début de saison, et qui finalement commence à être de plus en plus utilisé, bien utilisé. On commence à se rendre compte que c'est un bon running back, donc ça peut aider. Derrière, bon, Waller n'est toujours pas là, mais quand il va revenir, ça pourrait être une attaque qui est vraiment bonne dans tous les cylindres, comme on dit, un peu dans toutes les catégories. Donc oui, ça commence à donner envie. Ce n'était que les Texans en face, mais pourquoi pas, ouais, du côté de Las Vegas.
27 courses, 27 passes, aucun ballon perdu, la ligne couvre des brèches, Jacobs en feu. C'est bien quand même, ils partent de loin, mais ils vont beaucoup mieux, Greg.
Oui, bah au moins ils arrivent à équilibrer un petit peu plus le secteur offensif. Je trouvais que ce qui me dérangeait ces dernières semaines, c'était justement l'excès de pression, on va dire, le fait de voir Derek Carr peut-être forcer un petit peu trop à la passe. Et on voit en effet que quand on revient sur des fondamentaux, entre guillemets, ces dernières années du côté de Las Vegas, bah, ça sourit, ils marquent un peu plus de points au tableau d'affichage. C'est sûr que l'affiche n'est pas encore flatteuse aujourd'hui, parce qu'ils sont à 2 victoires et 4 défaites, mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a perdu beaucoup de matchs accrochés depuis le début de la saison, donc qui, je pense, vaut beaucoup mieux sur le papier que cette fiche brute. Mais non, très clairement, c'est de bon augure. Alors, c'est sûr qu'en face, il y a des Texans qui, on le répète au fil des semaines, restent un peu trop légers sur 4 cartons. Mais encore une fois, c'est bien pour faire le plein de confiance et se remettre dans le bain, surtout après la défaite un petit peu crève-cœur à Kansas City avec cette décision contestée de Josh McDaniels.
Bon, leur défense laisse quand même Davis Mills faire son meilleur match de la saison. Je sais qu'il faut donner du crédit aux Texans pour leur match correct, mais il est peut-être là quand même l'axe de progrès pour les Raiders. Il y a Max Crosby qui met de la pression, mais en défense, ça reste quand même en souffrance du côté de d'Oakland, de Las Vegas.
Ouais, j'ai failli faire le lapsus aussi. En effet, oui, c'est sûr que on l'a dit, ce ne sont que les Texans et le match est serré. Les ambitions de Las Vegas sont quand même bien plus hautes que d'avoir un match extrêmement serré pendant trois quarts temps face à Houston. Mais en même temps, ils gagnent ce match-là. Après, oui, il va falloir serrer un peu plus la défense. Pierce en face fait aussi un très bon match. Il faut pas non plus penser que Houston est une équipe faire valoir, parce que il y a David Mills qui fait un bon match, il y a Dameon Pierce qui est très bon, donc il faut quand même arriver à stopper cette équipe-là. Après, oui, il y a des axes de progression certains du côté de Las Vegas, la défense en fait partie, mais voilà, au moins ils arrivent à gagner ces matchs-là. On le disait, c'était une équipe qui était à 1-4 et elle était loin de ce bilan-là, mais il faut le prouver sur le terrain. Ils commencent à regagner des matchs, en tout cas ils ont regagné ce match-là pour passer à 2-4, il va falloir en gagner un peu plus, mais oui, il va falloir s'améliorer tout de même dans certains secteurs.
Greg, il va falloir quoi pour que Houston gagne un autre match?
Non, bah, est-ce qu'il...
Et c'est ainsi que se termine l'épisode 200.
Non, mais ils en sont pas loin. La preuve, ils ont quoi? Ils ont quand même une victoire et un nul depuis le début de la saison, depuis cette semaine. Je pense qu'on était beaucoup plus pessimiste sur le contenu global des Texans. Il y a une défense qui est bonne, notamment un backfield défensif. Voilà, bon, en attaque, encore une fois, Davis Mills, je voulais bien croire à la belle histoire en début de saison, mais on voit qu'il y a quand même quelques limitations. Et là, en plus, sur ce match-là, même si en effet la défense des Raiders n'est pas la plus constante, voilà, il y a une O-line en effet qui a montré aussi certaines limites. Donc, va falloir un peu plus de coups d'éclat pendant, notamment dans le secteur offensif, mais je pense que ce sera travaillé avec le départ récent de Jack Easterby. Peut-être enfin y avoir un...
C'est vrai.
Les tables vont peut-être enfin tourner, comme on dit, outre-Atlantique, lors de la prochaine intersaison, notamment dans le secteur offensif.
Du coup, qu'est-ce que ça veut dire que les tables tournent? Genre, surtout si elle est ronde, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Bon. Houston, en tout cas, ouais, j'étais en train de me dire que Davis Mills se prépare une carrière à la Case Keenum, tu sais, espoir du côté de Houston au tout début, et puis en fait, backup à vie après.
Sûrement, mais je pense que ce sera un bon backup en NFL. Hein.
Ah oui, oui, donc, bah, voilà, c'est pas déshonorant, attention.
Voilà.
C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 527 du podcast Jean Actu. Merci à vous de nous écouter, merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à aller rejoindre Corentin, Jérémy et Ben, se sont ajoutés à la liste cette semaine. Les contreparties Tipeee, Non, elles sont pas encore parties, elles sont sur mon bureau, je suis en train de vérifier, j'ai les enveloppes. Ça part, je vous promets, ça part très bientôt. Merci beaucoup à tous de nous écouter, les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier, TikTok @TDActu. Tout ça géré par notre merveilleux community manager Seb, parce qu'à chaque fois que je dis TikTok, je réalise que j'ai aucune idée de ce qui s'y passe. Donc,
si tu savais.
Ouais, voilà, je suis en train de me dire, ça se trouve, Seb, il fait des trucs incroyables avec notre TikTok. Je lui fais tellement confiance, en fait, que je ne sais pas. J'ai pas de compte TikTok perso, je crois, donc je sais même pas comment aller voir, en fait.
Bah, pour le coup, l'interview de Brett Favre sur TikTok est superbe de TDA.
C'est ça, t'imagines? T'imagines, c'est celle où il avoue qu'il a fraudé les impôts, là, pour avoir des subventions et tout. Ou la versée, je sais plus quoi, bref. Merci à tous, en tout cas, toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com, j'ai pas rappelé, c'est Elvola pour Lucas sur Twitter, et Yellow Radio ça pour Greg. Je vous remercie beaucoup, on se retrouve demain pour la preview, ce sera avec Lucas, je crois.
Exactement.
Eh bien, on se retrouve demain pour la preview de la 8e semaine déjà en NFL. On parlera notamment des belles surprises de la saison NFL. Donc, vous vous doutez bien, on va reparler un petit peu des Giants, on va reparler un petit peu des Seahawks et d'autres. Merci beaucoup à tous. Très bonne fin de journée, soirée, matinée. On ne sait pas, c'est un podcast. À bientôt. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses. Fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.